J'avais une permission exceptionnelle pour aller assister à une chasse à courre avec mes parents. C'était pas très fréquent à l'époque et mes parents avaient demandé à la maîtresse si je pouvais m'absenter une journée. Et la maîtresse, Mlle Preta, avait posé comme condition que je fasse une rédaction de la journée de la chasse à courre, que je décrive dans le détail. J'avais donc 9 ans. Donc j'ai fait une rédaction de 7 pages. J'aimais beaucoup écrire déjà à l'époque et j'ai raconté tout de la chasse à courre. Et j'ai dû lire mon rédaction à l'estrade. Vous savez, il y a une estrade dans les écoles maternelles à l'époque. J'étais en 7e et j'ai lu la rédaction sans lire mon texte. J'ai lu les 7 pages de la rédaction. Je n'avais pas été empêchée de faire ça par le fait d'avoir appris très peu de temps après la rentrée que j'étais née dans le ruisseau.
Dis, toi, de qui tu tiens? Un documentaire de Jean-Baptiste Durand.
Bâtard, bâtarde.
Il n'y a qu'une, je peux pas, une de mes cousines quand même, qui ne veut pas me connaître. Parce que, dit-elle, je suis une bâtarde.
Adjectif et nom, masculin, féminin.
Pourquoi je suis une bâtarde? Parce que je suis née hors mariage. Pour moi, c'est un mot qui n'existe plus.
Désigne un enfant né hors du mariage, souvent péjoratif.
Bâtard, je conçois pas un bâtard.
Se dit des animaux issus d'un croisement non identifié.
J'ai grandi en Champagne, ce qui me fait dire souvent que je suis champenoise, parce que mon père adoptif aimait beaucoup le champagne. J'ai grandi difficilement, parce que je ne comprenais pas bien ce qui se passait autour de moi. Il y avait beaucoup de mystères, et à 9 ans, j'ai demandé à aller à l'école laïque, après avoir été dans une école religieuse. J'étais en 7e. Et il y avait beaucoup de bruit autour de moi, beaucoup de choses qu'on se disait, sous-entendait surtout. Et à l'école publique, on m'a dit « Tu ne t'appelles pas Françoise Untel, tu es née dans le ruisseau. » Et c'est à 9 ans que j'ai eu la confirmation que j'étais adoptée. Le jour même, j'ai demandé à mon père à quitter ma mère adoptive. Et j'avais 9 ans. Je savais plus ou moins que j'étais adoptée, mais ce n'est pas exactement dit. Il faut savoir que ma famille naturelle, ma mère naturelle, est restée en contact avec l'organisme d'adoption pendant plusieurs années, ce qui n'est pas légal, mais pour se rassurer avec la personne qui m'a placée chez mes parents adoptifs. Donc, il y a eu des échanges de photos. Je pense que j'ai entendu parler de mon prénom et de mon nom. Et quand j'ai su mon vrai prénom de naissance et mon vrai nom de naissance, je n'ai pas été étonnée. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais déjà entendu.
Le 9 août 1950, chère madame, je suis très émue en recevant votre lettre et vous remercie de vos bons voeux. J'espère que le temps aidant et les très bonnes nouvelles que je puis vous donner de votre petite Isabelle vous donneront quelques apaisements. Elle est choyée et entourée de toute l'affection et la tendresse qu'on peut prodiguer à un enfant. Au point de vue de son avenir, vous n'avez rien à craindre, ni au point de vue moral, ni matériel, rien ne lui manquera. Je voudrais apporter quelques paroles de consolation à votre pauvre cœur si meurtri et vous assurer que je vous donnerai toujours des nouvelles de votre fille lorsque vous m'en demanderez. Bon courage, bien chère madame. Je suis sûre que la reprise de contact avec votre enfant vous aura apporté quelques douceurs et aura atténué la plaie si cruelle dont j'ai été témoin. Vous pouvez toujours me joindre rue de Berry. Je pense beaucoup à vous en ces tristes jours, et je vous prie de croire en toute ma compréhension et en mes souvenirs les meilleurs. La directrice de l'organisme d'adoption.
Je ne comprenais pas pourquoi une mère pouvait... Je ne pensais pas que c'est mon père qui m'a abandonnée, je pensais que c'était ma mère. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait abandonnée. Et j'imaginais des choses gravissimes, notamment que j'étais l'enfant d'un viol. Je n'ai pas imaginé d'autre chose jusqu'à l'âge de 17 ans. On m'avait raconté que il y avait des raisons gravissimes qui avaient fait qu'ils avaient été obligés d'abandonner, mais j'imaginais le pire. Je n'ai pas imaginé le meilleur, j'ai imaginé le pire. Et je me sentais assez coupable.
Bonjour.
Ma mère nous avait offert deux poupées, ma sœur et moi, deux très très belles poupées. Vous savez, les poupées qu'on avait là toujours aujourd'hui, Corolle, les plus belles poupées qui soient pour un Noël. Elle nous avait demandé de les appeler.
Je m'appelle Isabelle de Beauregard.
Et ma sœur a appelé sa poupée Jocelyne, et moi j'ai appelé ma poupée Isabelle de Beauregard.
Fais-moi un câlin.
Et on saura plus tard dans l'histoire que mon vrai prénom, c'est Isabelle. Allez savoir comment ça s'est arrivé, comment j'ai inventé ça à l'âge de 4 ans. J'imagine, et mon psychothérapeute imagine avec moi, que j'ai entendu dire des choses sur ma naissance que mes parents savaient plus ou moins. Voilà.
Maman, pourquoi tu m'aimes pas?
Donc il y avait déjà l'idée d'un nom à particules. Mon père adoptif s'est employé tout le monde a l'essence à dire chez les, son nom à lui, sa famille à lui, c'est 300 ans de roture sans une tache de noblesse. Et j'ai réfléchi longtemps avec mon psychothérapeute ce que voulait dire la tache. Pourquoi une tache de noblesse? Quel était le sens du mot tache? Et la tache n'est autre que la tâche qui existait dans l'esprit de ma mère adoptive, la tâche, la seule tâche qui existe, c'est la tâche qui était ma naissance, c'est-à-dire le fait que j'étais conçue hors mariage. Ma mère adoptive était très croyante, ne concevait pas un enfant hors mariage. C'était ça, la tâche.
C'est ridicule, bourgeoisie et aristocratie, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Françoise est née aristocrate, elle a été adoptée dans une famille de bourgeoises, et tout ça, ça n'a plus aucun sens. Je m'appelle Diane, j'ai 23 ans et je suis la petite cousine de Françoise dans sa famille naturelle. Bon, on ne nous l'a pas présentée, enfin on nous l'a présentée comme une cousine de maman, mais à aucun moment on a évoqué le fait qu'elle soit une enfant illégitime. Déjà la notion de bâtard, elle n'existe pas ni pour ma mère ni pour ses sœurs. Enfin ça veut rien dire aujourd'hui être bâtard. Moi personnellement ça me choque parce que je suis loin de tout ça. Loin de ses valeurs, de ses règles, beaucoup de pudeur, beaucoup de ses principes que je ne partage pas. J'ai pas été éduquée de cette façon. Je pense que si Françoise avait été née à notre époque, voilà, en même temps que nous, elle aurait jamais connu cette histoire-là.
Dès que j'ai eu 17 ans, j'ai demandé... D'abord, mes parents m'ont présenté à la personne qui m'avait placée chez eux. J'ai été la voir à Paris, j'avais 17 ans. Elle m'a donné une adresse, je suis allée frapper. L'organisme qui m'avait placée chez mes parents adoptifs n'a pas voulu me répondre, m'a claqué la porte au nez. On m'a dit, vous ne saurez rien, il n'y a pas possibilité de savoir. Et là, sincèrement, j'avais 17 ans, j'ai cru que je ne survivrais pas. Et donc, j'ai entamé une psychothérapie qui a été longue, qui m'a permis de survivre d'abord, de vivre ensuite. Et j'ai travaillé très jeune, sans faire d'études, pour pouvoir me consacrer à mes recherches et imaginer ce que pouvaient être mes parents, vu que j'étais si différente de mes parents adoptifs. Je voulais savoir à qui je ressemblais. J'ai cherché désespérément.
Le 25 août 1949, à minuit 55, est née Isabelle de C., de sexe féminin. En vertu de deux jugements rendus, le premier à la date du 22 décembre 1949, le second à la date du 26 janvier 1950, le tribunal de la Marne a prononcé premièrement la légitimation adoptive de la mineure désignée dans l'acte ci-contre par les époux M, et deuxièmement que les prénoms et noms de l'enfant seront désormais Françoise M.
Pour mon mariage, en 90, j'ai dû demander un acte de naissance. C'est par cet acte-là que je sais que j'avais un autre nom à ma naissance, et que mon nom est le nom de famille de mon père adoptif.
Acte de naissance dressé le 26 août 1949.
Je commençais à faire ma vie, j'avais 35 ans. Maman m'a dit, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oh, je lui dis, maman, s'il te plaît, attendons un petit peu. Et j'ai immédiatement eu le sentiment que c'était une révélation. C'était, je ne sais plus quelle année, j'avais 35 ans. Et j'ai fait attendre maman. J'ai attendu au moins 10 jours. Je lui ai dit, est-ce que je peux passer tel jour pour ce que tu veux me dire? L'une de mes sœurs, naturelle, était venue la voir pour lui exposer le fait que mon vrai père avait fait des recherches pour me retrouver et voulait se faire connaître à moi et voulait me retrouver. Les bras m'en sont tombés, j'en revenais pas. J'étais dans tous mes états, c'est-à-dire que je n'ai pas encore mariée et j'ai dit à mon mari heureusement parce que on aurait été mariés, j'aurais demandé à prendre une chambre de bonne pendant 6 mois pour réfléchir. Et j'ai bien attendu 6 mois avant de connaître mon vrai père.
La première fois que j'ai rencontré Françoise, j'avais environ 9 ans, quelque chose comme ça. Maman l'avait invitée à la maison pour le déjeuner ou pour le café, je ne sais plus. C'était la première fois que je la rencontrais. J'ai peu de souvenirs, mais je me souviens d'une grande femme très souriante, heureuse de vivre, avec un rire très particulier. C'était assez étrange de la voir si souriante parce que Maman m'avait plus ou moins dit que c'était une femme qui avait eu une histoire particulière, qui avait eu une histoire assez triste et qui revenait de loin. J'avais plutôt l'impression d'avoir une femme assez équilibrée, très heureuse et contente de nous connaître, très chaleureuse.
Je n'imaginais pas comment serait la rencontre. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, ma sœur était présente. Et ce qui a beaucoup aidé, puisqu'elle est à peine plus âgée que moi, c'était le café de la Rotonde à Montparnasse. Je suis arrivée à l'heure. Je connaissais ma sœur, donc j'ai eu facile de la rencontrer. Je suis allée vers mon père et il m'a embrassée, m'a serrée dans ses bras. J'étais stupéfaite, j'ai rien pu dire. Puis après, on s'est parlé longuement, puis on s'est apprivoisé. Surtout moi, j'ai dû faire un lien dans ma tête, le regarder, l'observer. Il m'a parlé, il m'a aussitôt donné son adresse pour le revoir, il voulait me connaître, il voulait me revoir, et je lui ai dit moi aussi volontiers. Moi, je voulais le regarder. Je ressemblais à personne. Je voulais ressembler à quelqu'un. Et ma plus grande joie, c'est de ressembler physiquement à quelqu'un.
J'ai un gros nez rouge, des traits sur les yeux.
À 18 ans, ma mère adoptive m'avait dit « Françoise, tu as un gros nez, cache ton nez. Il ne faut pas qu'on voit tellement ton nez que ça, il n'est pas beau. »
Un chapeau qui bouge, un air malicieux.
Et j'avais adopté une coiffure à cheveux mi-longs, au carré à l'époque ça se faisait déjà, et je cachais mon nez, ce qui avait pour effet de mettre les cheveux au milieu de la figure. Et je croyais, je ne peux pas dire que j'ai un complexe, mais j'étais toujours persuadée que j'avais un gros nez. Et quand j'ai vu mon père, j'avais le nez de mon père. Et je peux dire que parmi ses enfants, je crois pouvoir dire que je suis celle qui lui ressemble le plus.
De grandes savates, un grand pantalon.
Donc c'était un délassement. C'est-à-dire que j'avais le nez de mon père, donc du moment que je ressemblais à quelqu'un, c'était plus un gros nez, c'était un nez, tout simplement, un nez. J'avais le nez de mon père, c'était tout. Ça suffisait, après j'étais en confiance.
Et quand ça me gratte, je saute au plafond.
À une époque, j'ai cru sa parole tout de suite. J'ai tout cru, puis j'ai eu des doutes. Et comme beaucoup d'enfants abandonné, j'ai pensé, c'est le début des tests, quand j'ai su ma filiation, le début des tests de paternité. Ayant eu des doutes, j'y ai songé. Et mon thérapeute m'a dit, attention Françoise, ce sont des choses qui créent beaucoup de drames dans les familles, les tests de paternité. Alors ma cousine, qui m'autorise à vous dire son prénom, ma cousine Roselyne, est venue à mon secours en me donnant une lettre qui prouvait au-delà de toute espérance que j'étais la fille de mon père. Et ça a suffi à me rassurer. Je n'ai pas eu besoin de test de paternité. J'ai su de façon certaine que j'étais sa fille. J'étais à nouveau calme.
Le 17 août 1990. Ma chère petite Roselyne, en te remerciant de ta précédente lettre du 8 janvier qui a tardé à me parvenir, car j'ai déménagé, comme je vais te l'expliquer.
J'ai appris l'existence de Françoise il y a une dizaine d'années. Et je l'ai appris par son père biologique, comme on dit, père naturel. Et je suis tombée des nues. J'avoue que je l'ai appris par une lettre très gentille qu'il m'a envoyée. Parce que c'est un oncle avec qui j'étais un peu en contact. Il m'a écrit pour me donner de ses nouvelles, des nouvelles de ses enfants. Et puis, ce qui m'a frappé dans cette lettre, c'est la phrase « Et pour couronner le tout,
l'événement majeur de ma vie actuelle est que j'ai reconnu une fille dont la mère est ma belle-sœur. Cet enfant qui porte le nom de Isabelle Françoise est né le 25 août 1949. Elle va donc avoir 32 ans fin août cette année. J'ai eu la lâcheté de ne pas la déclarer lors de sa naissance, car j'espérais ainsi sauver notre vie de famille. » Surtout pour mes enfants. Mon épouse, ayant exigé le divorce, j'ai décidé de partir à la recherche de cette fille que j'avais prénommée Isabelle Françoise. Ça a été une grande difficulté, mais je m'y suis accroché avec acharnement. J'ai réussi à l'identifier et à me faire connaître d'elle et de ses parents adoptifs, et cela au bout de nombreuses années. Elle vit à Paris, Elle habite près de l'étoile et a une situation à proximité. Si tu le veux, et quand tu le voudras, je te ferai faire sa connaissance. C'est une grande fille, assez distinguée et élégante, qui a hérité de mes yeux. J'aurai encore bien des choses à te dire, mais je dois tout de même m'arrêter. Bien entendu, tu peux communiquer au tien tous les détails exposés ci-dessus. Bien affectueusement, Bernard de C.
Donc j'ai eu envie de la voir et je suis pour ça allée au drugstore où elle travaillait, j'étais sur son lieu de travail. Comme c'était les seules indications qu'il me donnait, mon oncle, sans doute il s'est dit que j'allais y aller. Et j'y suis allée, sans m'annoncer, sans prévenir, sans même le dire à mon oncle, je crois. Je ne sais plus, à vrai dire. Je ne sais plus ce que je lui ai répondu après cette lettre. Je l'ai fait, je l'ai tout de suite vu qui c'était. Parce qu'il m'avait dit, mon oncle, c'est une grande fille assez distinguée, elle a hérité de mon nez. Des détails comme ça, amusants. Et j'y suis allée, je l'ai tout de suite repérée, je me suis présentée, je lui ai dit que j'avais reçu une lettre. Et alors, tout de suite, oh là là, formidable. Puis on a pris rendez-vous, et puis voilà. Puis après, le contact a toujours été régulier. Pas fréquent, mais régulier.
Rosine a la gentillesse de dire c'est ma cousine, et mes sœurs ont la gentillesse de dire c'est ma sœur. C'est très gentil. C'est pas, j'apprécie beaucoup, c'est délicat vis-à-vis de moi.
Pour moi, ça va de soi, ça m'a jamais. Dans la mesure où c'est mon oncle qui me dit je voudrais que tu fasses la connaissance de ma fille.
C'est ça. Donc voilà, je suis très touchée que la grande partie de ma famille m'ait appelée sœur et cousine, comme si j'étais de la famille, un peu depuis toujours, ce qui n'est pas le cas. N'est-ce pas ?
J'espère avoir répondu à son attente. Moi, je lui ai parlé de mon oncle, que j'aimais beaucoup. Je me souviens bien de lui. Il était quelqu'un... parce que j'en ai des oncles et tantes, j'en ai. Mais lui, j'ai eu un contact personnel. Il m'a invité chez lui. Il habitait une époque avec son beau-frère. Il m'a invité, moi.
C'était une propriété avec un grand parc, c'était l'aile d'un château, enfin c'était une propriété qu'il occupait en partie, près de la forêt qui était à Fontainebleau, là c'était pas loin de Fontainebleau. J'allais le voir régulièrement, pas très fréquemment, mais j'avais tout le samedi pour prendre la voiture, j'avais une 104 à l'époque, je me souviens très bien, et je partais seule près de Nemours pour le voir dans sa propriété où il résidait, et il me faisait connaître, il montrait des souvenirs, il montrait des photos, et il fallait qu'on fasse connaissance, c'est ça. Ah, il y a aussi, là... Il y a aussi ce qu'a créé mon mari. Pour me faire plaisir, on est allé voir la propriété où a vécu mon père, où il a grandi, où a vécu aussi ma sœur aînée. Et mon mari l'a reproduite. Et on a même fait un tableau pour ma sœur aînée qui lui a fait une commande pour le reproduire et qui a elle-même mis dans sa chambre comme souvenir. Et je l'ai fait encadrer avec un encadrement moderne en bois. L'endroit où je vis, vous voyez, c'est tous les souvenirs. C'est très important, je vis au milieu. J'ai une vie, bien sûr, avec mon mari, mais j'ai bien besoin de mes souvenirs, beaucoup, beaucoup. Ça m'aide beaucoup. J'ai eu quelques années où je le voyais le samedi. C'était un moment de ma vie capital qui, malheureusement, si je peux vous dire, a été brusquement arrêté net par ma famille adoptive. Il faut que je vous le dise quand même. Mon père adoptif, voyant que j'allais le voir, je ne m'en cachais pas, je n'en parlais pas beaucoup. Mon père adoptif m'a dit un jour qu'il avait beaucoup de peine que je voie mon père naturel. Peut-être savait-il que j'avais papa, peut-être savait-il que je m'intéressais à lui, certainement. Il m'a dit, tu sais, ça me fait beaucoup de peine, mais il ne m'a pas dit jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas dit qu'il était en train de faire un procès à mon père naturel, si celui-ci continuait à me voir. Je dis, papa, tu n'as pas besoin de menacer, tu n'as qu'à me dire à moi que ça te fait de la peine. Je n'ai qu'une parole, je te promets que je ne reverrai pas mon père naturel. C'est une promesse, tu peux me croire. Mon père adoptif a fait la démarche de me chercher, de m'élever, et je lui ai promis. Du jour où j'ai dit à mon père adoptif, tu peux me croire, papa, je n'irai plus revoir mon père, je n'ai plus revu mon père. Et un an après, il m'a téléphoné à 2h du matin, je rentrais du travail. Françoise, viens me voir, Je n'ai plus pour longtemps à vivre. Je dis, papa, j'arrive, dès que mon repos, j'arrive vous voir. J'étais dans sa maison de retraite, j'y suis allée une fois. Et il est mort après, je ne l'ai plus revu. Ça a été, voilà, c'est comment c'est terminé. Ça a été un drame, mais j'étais obligée.
Dis, toi, de qui tu tiens ?
J'ai 62 ans. Les plus belles années sont celles qui vont arriver. Et je me sens... Pas du tout, Isabelle de Beauregard, pas du tout. Je me sens... Comment vous répondre aujourd'hui ? Je me sens Françoise.
Avec Françoise H, Roselyne de C, Diane A. Une production du CUEJ, Centre universitaire d'enseignement du journalisme. Réalisation Pascal Doumange. Merci à Christophe Deleu, Diane Aragou et à l'ensemble de la promotion radio du CUEJ.